Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Autopsie d'une solitude. Emily Dickinson, née en 1830 et morte en 1886, c'est une poétesse américaine née à Amherst, dans le Massachusetts. Elle a passé la plus grande partie de sa vie dans la maison familiale, presque recluse. Préoccupée très jeune par la mort et l'immortalité, elle est l'auteur de 1800 poèmes, dont 12 furent publiés de son vivant, et d'une abondante correspondance. Ses poèmes sont atypiques pour son époque, des vers courts, sans titre, avec des rimes imparfaites, des majuscules, une ponctuation non conventionnelle. En 1886, sa sœur Lavinia découvre la cachette de ses poèmes et commence leur publication en 1890. Retrouvez Emily Dickinson dans cette émission Autopsie d'une solitude par Mildred Clary en 1966.
Autopsie d'une solitude, hommage à Emily Dickinson, une émission de Vera Feder. Avec Jean Negroni, Pierre Delbon, René Farabet, Vera Feder et Michel Bouquet. Avec la voix de Mildred Clary. Réalisation Bernard Latour.
Voici ma lettre au monde, qui ne m'écrivit jamais les simples faits que nature raconte en sa tendre majesté. Des mains que je ne peux pas voir recèlent son message. Pour l'amour d'elle, 12 hommes des bois, jugez-moi tendrement.
Dans sa petite ville natale de la Nouvelle-Angleterre, le 15 mai 1886, meurt Emily Dickinson.
Pour les habitants d'Amherst, elle n'était qu'une vieille fille peureuse qui s'enfuyait chaque fois qu'un visiteur s'annonçait à la grille du jardin. Depuis des mois, refusant de quitter sa chambre, elle n'en descend même plus pour venir saluer les rares amis qui viennent encore s'inquiéter de sa santé. En signe amical, elle leur fait porter par Lavinia, sa sœur, des petits mots griffonnés sur le champ, de courts poèmes.
Créée, épousée, enveloppée d'un suaire en un seul jour, l'eau, c'est la soif qui la prend. La terre, les mers passées. L'extase, agonie soufferte. La paix, c'est guerre comptée. L'amour, un tertre funèbre. Et l'oiseau, la neige.
Qui est Emily Dickinson? Aujourd'hui encore, ses biographes s'interrogent. Pénétrer la vie et l'œuvre d'un poète aussi secret n'est pas chose aisée. Même le temps et l'acharnement ne réussissent pas toujours là où la conviction a échoué.
Au lendemain de la mort d'Emily Dickinson, deux personnes au moins sont convaincues de l'authenticité de son génie. Mabel Loomis Todd, son amie des dernières années, et le colonel Thomas Wentworth Higginson.
La première va tenter de rassembler les innombrables lettres témoins qu'Emily délégua toute sa vie aux amis proches ou lointains, jalons affectifs d'une existence envahie peu à peu par la peur et la hantise des refuges célestes. Le second se charge des poèmes. Déception pour l'un comme pour l'autre, selon la dernière volonté d'Emily, Lavinia, sa sœur, vient de brûler toute sa correspondance. Ne reste que des petits bouts de papier ou de hautes lettres largement espacées dissimulent peut-être à celui qui s'efforcera de le découvrir le poème surprenant.
Espérant, j'ai craint. Depuis l'espoir, j'ose. Partout solitaire comme église en ruine, spectre ne peut nuire, ni serpent charmé. Malheur n'est plus roi pour qui il a souffert.
Nous sommes en 1862.
Sur la jeune Amérique plane encore une odeur de roussi. N'oublions pas que la guerre de sécession commencée en 1861 bat son plein et la chasse aux sorcières, dénoncée par Nathaniel Hawthorne dans la lettre écarlate, est présente à tous les esprits. Si les derniers bûchers du fanatisme puritain s'éteignent, ceux du ségrégationnisme racial s'allument un peu partout.
Higginson est chroniqueur à l'Atlantic Monthly de Boston. Ses articles, où il prend fréquemment le parti des femmes de lettres, et plus violemment celui des Noirs, l'imposent comme un critique audacieux et sensible.
D'autre part, Higginson est un dénicheur de talent. Est-ce parce qu'elle vient de lire sous sa plume, est-il rien de plus fascinant que de découvrir un génie, qu'elle ose lui écrire le 15 avril 1862 cette lettre pour le moins impérative?
Monsieur Higginson, êtes-vous trop résolument occupé pour dire si mes vers sont vivants? L'esprit est si près de soi-même qu'il ne peut voir distinctement, et je n'ai personne à qui demander. Si vous pensez que ma poésie respire, et si vous avez le loisir de me le dire, j'en éprouverai une vive gratitude. Si je commets une erreur et que vous osiez me le dire, mon estime pour vous en serait plus sincère. Je joins mon nom et vous demande, s'il vous plaît, monsieur, de me dire la vérité.
La vérité est qu'Higginson est intrigué par le ton de cette lettre et surpris par les poèmes qui l'accompagnent.
Bien qu'Emily Dickinson avouera plus tard, si la gloire m'appartient, je ne puis y échapper. Il est certain qu'en s'adressant à Higginson, elle ne cherche ni à briller, ni à se faire remarquer, encore moins à être publiée.
Publier, c'est mettre aux enchères l'esprit humain.
Plutôt, elle est avide d'un regard, d'une attention chaleureuse. Elle a besoin d'avoir confiance en quelqu'un. Elle pressent en Higginson un homme généreux et attentif. Elle ne se trompe pas, mais il oppose à cet élève soumise et enflammée la rigidité du critique. Tant d'ardeur sophistiquée en même temps que sincère le déconcerte et l'intrigue.
À celui qu'elle appelle son précepteur, elle confie avec une naïveté un peu précieuse.
Vous me demandez qui sont mes compagnons? Les collines, monsieur, et le couchant, et un chien aussi grand que moi que mon père m'acheta. Ils sont meilleurs que les êtres humains, car ils savent, mais ne disent rien. Et le bruit de la mare à midi l'emporte sur mon piano.
Interrogée sur ses lectures, elle répond:
comme poète, j'ai Keats, monsieur et madame Browning. Pour prose, John Ruskin, Sir Thomas Browne et l'Apocalypse.
Elle oublie Shakespeare, Emerson Edgar Poe, George Sand, Turgenev, Jefferson, Hume, Carlyle et les sœurs Brontë. De Walt Whitman, elle avoue:
je n'ai jamais lu son livre, mais on m'a dit qu'il est scandaleux.
Aux 50 poèmes qu'elle lui adresse, Higginson reconnaît une originalité et une profondeur certaines. Néanmoins, il lui recommande de s'appliquer davantage, de travailler son style. Elle négligera les conseils, mais, éperdue de reconnaissance, lui écrira:
cher ami, votre lettre ne m'a pas donné d'ivresse, parce que j'ai goûté au rhum auparavant. Saint-Domingue ne nous échoua qu'une fois. Pourtant, j'ai eu peu de joie aussi profonde que votre opinion. Et si j'essayais de vous remercier, mes larmes paralyseraient ma langue. De nos plus beaux actes, nous demeurons ignorants. Vous ne saviez pas que vous m'aviez sauvé la vie.
3 ans après, Higginson risquera un voyage à Hammerts afin d'y rencontrer son élève, Émilie refusant obstinément d'affronter Boston et les salons littéraires. Avec consternation, il verra venir vers lui une jeune femme au sourire difficile que la peur paralyse. Ses cheveux, dont les bandeaux dissimulent en partie le front vaste et bombé, ainsi que les oreilles, sont tressés en chignon sur la nuque. Les yeux sombres, largement écartés, sont immenses sous des paupières lourdes et bien arquées. Le nez est frémissant, et la bouche, sans cette légère crispation qui trahit l'angoisse, aurait aux commissures quelque chose de malicieux. Higginson a devant lui le portrait type de la vieille fille de province, vêtue d'une robe noire dont l'encolure dégagée fait ressortir le cou blanc et long, souligné d'un ruban de velours, ni jeune, ni belle. Du fond de son jardin, elle s'avance vers lui, deux lys dans sa main tendue.
Acceptez ces deux lys, qu'ils me servent de présentation. Excusez-moi si je suis effrayée, mais je ne vois jamais d'étrangers et je sais à peine ce que je dis.
Higginson gardera de cette entrevue un souvenir bizarre et assez pénible. Ils se promèneront dans le vaste jardin qui entoure la propriété des Higginson, le domaine familier d'Emily. Dans l'enclos de cette recluse volontaire qui cherche la poésie comme on cherche Dieu et qui écrit faute de ne pouvoir prier, Higginson se sent mal à l'aise. Il entend d'étranges propos sur la poésie.
S'il m'arrive de lire un livre et qu'aussitôt mon corps devienne tellement froid qu'aucun feu ne puisse le réchauffer, je sais que cela, c'est de la poésie. Si je sens physiquement que le haut de ma tête est enlevé, je sais que cela, c'est de la poésie. Ce moyen est le seul, je le sais. Y en a-t-il un autre ?
Je n'ai jamais rencontré personne qui ait tant mis mes nerfs à l'épreuve.
Malgré cette déclaration, Higginson retournera à Amherst en 1873, 3 ans après sa première visite. Il subira cette même gêne et cette même fascination.
Emily continue à lui envoyer ses poèmes. Souvent trop occupé, il les néglige. Pourtant, ce sera lui qui, en 1890, 4 ans après la mort de sa protégée, préfacera une première parution de 115 poèmes. Il écrit à Lavinia:
cher ami, excusez-moi de vous importuner, mais il m'arrive très souvent de souhaiter votre sympathie, car vous êtes le seul être qui ait le même sentiment que moi sur cette chose extraordinaire que nous avons faite, révéler ce rare génie. J'ai l'impression que nous avons escaladé un nuage et qu'en l'écartant, nous avons révélé un nouvel astre derrière lui.
Parti au jugement par un auguste soir, de grands nuages, tels des huissiers, s'inclinent, la création regarde. La chair s'est rendue, annulée. L'incorporel commence. Deux mondes, tels des auditoires, se dispersent. Et l'âme est laissée seule.
L'âme est laissée seule.
À 16 ans, Emily Dickinson écrit à sa première amie et confidente, Abia.
Je deviens jolie, très vite. J'espère être la plus belle fille d'Amherst à mon 17e anniversaire. Je ne doute pas que j'aurai de splendides foules d'admirateurs à cet âge. Combien j'aurai de plaisir alors à les faire languir. Et avec quel délice j'observerai leur impatience à attendre ma décision.
Grâce et folie de l'adolescence. Pour Emily, elles flamberont à peine quelques saisons. Ces exubérances auront la gracilité, l'éclat fulgurant des jets d'eau qui retombent toujours dans le moule monotone des bassins.
À la même Abia, elle avoue, quelques mois plus tard,
« Si jamais je quitte la maison, ce qui est improbable, j'accepterai avec grand plaisir ton invitation. En attendant, chère Abia, je t'en remercie avec chaleur, mais n'espère pas ma visite. Je suis tellement démodée, chérie, que tous tes amis en seraient étonnés. Nous ne sommes plus aussi jeunes que naguère, et le temps semble se faire long. Je rêve d'être une grande dame peignant ses cheveux blancs, et je me résigne à l'idée de vieillir. C'est ma nature d'espérer toujours plus que je ne pourrai accomplir. Ma santé a été très mauvaise toute la seconde moitié du printemps. Mère pense que je ne serai pas capable de poursuivre mes études. Dès demain, je vais apprendre à faire du pain.
D'ailleurs, la gloire ne lui accordera de son vivant que des lauriers culinaires. À la foire agricole d'Amherst, elle présentera un gâteau de seigle qui obtiendra un second prix.
Éloignée du collège, Émilie s'astreint aux menues tâches ménagères. Très vite, elles lui deviennent un refuge. Contre quoi? Contre qui? La jeune fille serait bien en peine de le dire. Personne dans son entourage ne peut répondre aux questions que, secrètement, elle commence à se poser.
Or donc, la terre est brève. Et l'angoisse absolue, et beaucoup sont meurtris. Et puis, or donc, la mort nous guette, nulle vitalité n'a raison du déclin. Eh bien, or donc, au ciel sera une équation nouvelle, et tout s'aplanira. Mais quoi?
Mrs. Dickinson, la mère d'Emily, ne se préoccupe guère de sa fille.
Je n'ai jamais eu de mère. Je suppose qu'une mère est quelqu'un vers qui on accourt quand on a des ennuis.
Restent Lavinia, sa jeune sœur, et Austin, son frère, ses camarades de jeu, ses confidents occasionnels et passifs.
Quant à son père, administrateur du collège d'Amherst, il feint de l'ignorer. On ne sait que penser de cet étrange dignitaire qui, un soir, fit sonner le tocsin pour signaler aux 2600 habitants de sa petite localité la splendeur d'un coucher de soleil. Austin dira de lui qu'il était raide et ennuyeux comme procession funéraire.
Emily, elle, est plus indulgente, mais les portraits de famille qu'elle brosse à l'intention d'Higginson manquent singulièrement de chaleur.
J'ai un frère et une sœur. Ma mère ne s'intéresse pas à la pensée, et mon père est trop occupé par ses dossiers pour remarquer ce que nous faisons. Il m'achète beaucoup de livres, mais me prie de ne pas les lire, craignant qu'ils ne troublent l'esprit. Ils sont tous croyants, sauf moi, et s'adressent chaque matin à une éclipse qu'ils appellent Père.
Dieu, cette éclipse, ainsi nommée par Émilie, surgira cependant au cœur de ses méditations comme un voisin bienveillant, mais distant. À peine l'associe-t-elle à l'au-delà rayonnant auquel elle aspire. Car s'il est pour Emily Dickinson un langage familier et intime, c'est à la nature qu'elle le tiendra. Attentive à tout ce qui bouge et remue autour d'elle, elle parlera aux abeilles, aux rouges-gorges, au vent, aux bourgeons, identifiant sa destinée à la leur.
Un crapaud peut mourir de lumière. La mort est droit commun des crapauds et des hommes. Du moucheron et du marquis, le privilège. Alors, pourquoi te pavaner ? La suprématie du moustique est aussi vaste que la tienne.
Elle effiloche chaque jour patiemment, allant de la cuisine au salon, du salon au jardin, du jardin à sa chambre. Un seul complice, son dictionnaire, où elle puise les matériaux sonores de ses extases. Confrontés, ils tenteront de recréer l'image miraculeuse, fulgurante des instants. Le soir, sous sa lampe, après un dernier bain de lumière, les mots choisis sont couchés à grand jambage sur le papier. Émilie les examine avec la patience d'un horloger, remontant le temps, décomposant les paysages, recherchant les sonorités qui étonnent. Peu importe si les aiguilles ne donnent pas l'heure exacte, le balancier compte plus que les chiffres, l'image plus que le sens, et le mouvement plus que l'exactitude.
Of night to bear, our share of mourning, our blank in bliss to fill, our blank in scorning. Here a star and there a star, some lose their way. Here a mist and there a mist, afterwards day. Our share of night to bear,
souffrir notre part de la nuit.
Our share of morning,
notre part du matin.
Our blank in bliss to fill,
remplir de bonheur notre néant.
Our blank in scorning,
notre néant de dédain.
Here a star and there a star,
une étoile ici, une autre là.
Some lose their way,
certains perdent leur voie.
Here a mist and there a mist,
brouillards ici, brouillards là-bas.
Afterwards, day.
Plus tard, le jour viendra.
S'il est vrai, comme l'affirme Jean-Paul Sartre, que le choix libre que l'homme fait de soi-même s'identifie absolument avec ce qu'on appelle sa destinée, Emily Dickinson vivra désormais portée par ce grand silence immobile où la solitude tient ses assises.
Il y a une solitude de l'espace, et une solitude de la mer, et une solitude de la mort. Mais toutes sont compagnies, comparées à ce site plus profond, à cette intimité polaire, une âme reconnue par elle-même, infinité finie.
Aussi retrouvera-t-on dans toute la correspondance d'Émilie les thèmes immuables de ses poèmes, la nature, l'âme, l'au-delà. Elle en parlera toujours avec la même tranquille assurance, car la peur qui dénature ou transfigure selon l'être qu'elle frappe, la peur en l'isolant du monde extérieur, l'a acculée aux limites de son destin.
Je ne connais d'autres nouvelles que toute la journée les bulletins de l'immortalité.
Elle demeure étrangère aux grands événements de son temps. Tandis qu'une foule délirante accueille, venant de Palmer, le premier train entrant dans Amherst, Émilie se plaint à son frère.
La maison est envahie chaque jour par les grands et les humbles de ce monde, les asservis et les indépendants, et par le dollar tout-puissant.
Ses seules communications avec le monde, les lettres qu'elle envoie à ses amis. Mabel Loomis Todd, Susan Gilbert, sa belle-sœur, Kate Anton, Mrs. Holland, Mr. et Mrs. Bowles.
Il tempête à Amherst depuis 5 jours. Il neige, et puis il pleut, et puis des brumes ouatées, pareilles à des voiles, pendent à toutes les maisons. Et puis les jours deviennent topazes, comme une épingle de dame. Mon jardin est un petit tertre, avec des visages dessous, et seuls les pins chantent désert maintenant que les oiseaux sont absents. Je ne puis aller à mes amis lointains par des nuits aussi pénétrantes. Alors, j'appuie mes deux mains sur la vitre et je m'efforce de comprendre comment les oiseaux volent pour les imiter. Mais j'échoue.
Elle est le cœur de son jardin, le soleil des collines qui l'entourent, les saisons qui l'éprouvent ou l'épanouissent. Elle est la fuite et le refuge, la flamme et la cendre. Immobile, elle recrute dans le visible tout ce qu'elle sèmera dans ses errances à la recherche d'un dieu hypothétique. Jalonnant de repères l'invisible, elle y plante ses tentes, clôture ses domaines.
Parce que je ne pouvais m'arrêter pour la mort, aimablement elle s'arrêta pour moi. Rien que nous deux dans sa calèche et l'immortalité. Nous roulâmes lentement, je la savais sans hâte. Moi ayant délaissé labeurs et loisirs à sa courtoisie. Nous dépassâmes l'école où des enfants jouaient à lutter dans un cercle. Nous dépassâmes les champs d'épis curieux et le soleil à son couchant. Nous fîmes halte devant une maison qui semblait un soupir de terre, au toit à peine visible, à faible rempart, la gouttière. Tant de siècles ont passé depuis, tous plus courts que ce jour où la première je surpris des chevaux en crinière tournés vers l'éternité.
À l'instar d'Emily Brontë, elle va de toute son âme appeler cet apocalyptique cavalier de l'au-delà. Tout le reste n'est qu'apparence. S'il manque à ces paysages la lande désolée et les hurlements du vent, elle sera complice des plus infimes mouvements de la nature. Elle se fera mémoire dans ce corps dont les exubérances, les remous, les langueurs et jusqu'aux décrépitudes sont ceux de toute la création, magnifiés, multipliés jusqu'à l'infini. On pense à Irénée Funès, cet Indien mémorable dont parle Borges, qui discernait continuellement les avances tranquilles de la corruption, des caries, de la fatigue, les progrès de la mort, de l'humidité.
J'entends les rouges-gorges à distance, et les voitures à distance, et les fleuves à distance, et tous semblent se dépêcher vers quelque endroit qui me demeure inconnu. L'éloignement engendre la douceur. Si nous voyions l'objet de notre espoir, si nous entendions raconter avec calme tout ce que nous craignons, comme si ce n'était qu'une fable parmi d'autres, la folie ne serait pas loin. Chacun de nous prend le paradis en son corps ou l'en retire, car chacun de nous possède le talent de vivre. Il n'est point d'exemple d'une rose qui ait manqué son abeille, bien que dans certains cas précis, ce fût là une expérience écarlate. La carrière des fleurs ne diffère de la nôtre que par son imperceptibilité. En grandissant, je ressens plus de respect pour ces créatures muettes, dont l'incertitude ou le transport peuvent surpasser les miens.
À 24 ans, Emily Dickinson a choisi. Le monde ne sera pas son aventure. Quand sa santé le lui a permis, Elle a accompagné son père, fêté dans les milieux politiques de Boston, Philadelphie et Washington. Elle s'est attardée dans les musées. Elle s'est promenée dans d'autres paysages que ceux de son enfance. Son père l'a même traînée sur les tabourets de quelques salons mondains qui la trouveront brillante et spirituelle. Pour Émilie, l'éclat est une parure, non un vêtement. Très vite, elle a pressenti la corruption des ambitieux, la précarité des promesses, l'inutilité des effusions, l'indigence des propos échangés et le malentendu des échanges. Le monde, la conscience frelatée des foules, l'angoisse. À cette comédie de parade, elle va préférer la tragédie secrète de ses refus. Désormais, ses refus, refus de la jeunesse, des fêtes, de l'agitation, de l'amour, des effusions charnelles, son refus de vivre ne sera qu'une obstinée et incessante volonté de survivre. Refus de l'amour et du plaisir, mais paradoxalement, exaltation sublimée de l'un et de l'autre à travers les fureurs génératrices ou dévastatrices de la nature. Sublimer, c'est déjà survivre. Survivre à la jeunesse éphémère, à l'amour imprenable. En faisant de ses doutes une prière, de ses angoisses un vêtement et de sa peur un bâillon, Emily Dickinson est entrée en solitude comme on prend le voile. Ainsi, ses repères inviolés, les distances toujours seront respectées, établissant une fois de plus cette contradiction flagrante et éternelle. La chaleur est transmise, mais la pudeur est sauve, entre l'exaltation spirituelle et la passivité corporelle. Contradiction sans laquelle il n'est peut-être pas d'œuvre possible. Sollicitation passionnée d'une part et refus absolu de l'autre.
Si le refus, la fuite, est une épreuve qui n'engage que soi, très tôt, Emily Dickinson éprouvera que fuir la flamme, ce n'est pas forcément échapper à la brûlure.
On ne se soustrait pas impunément au feu. Elle accepte celui qui la dévore, mais il semble que jamais elle ne pourra ou ne voudra lui donner un nom. Sans doute en a-t-il plusieurs.
À 17 ans, il peut s'appeler Leonard Humphrey. À 20 ans, Benjamin Newton. Tous deux mourront tragiquement à 3 ans d'intervalle. Puis George Gould, auquel elle écrit cette lettre, retrouvée seulement en 1929 dans le journal local qui la publia.
Accordez-moi un entretien. Au lever du soleil, au crépuscule, ou à la nouvelle lune hors de l'espace, que m'importe le vêtement de pourpre, d'or ou de bure? Les armes comptent moins que le combattant. Que ce soit dans un carrosse ou un chariot ou sur un chemin, l'équipage importe peu. Que ce soit dans nos âmes, nos esprits ou nos corps, cela ne compte guère pour moi. Avec ou sans escorte, en plein soleil ou sous la tempête, dans un nuage ou sur la terre, n'importe où, n'importe comment, je vous offre cette rencontre. Notre amitié durera jusqu'à ce que le soleil et la lune ne déclinent plus, jusqu'à ce que les étoiles cessent de graviter, jusqu'à ce que les victimes se lèvent pour bénir le dernier sacrifice. Tous les grands esprits nous sont apparentés. Il y a entre nous un échange incessant de pensées. Je suis Judith, l'héroïne de la Bible, et vous êtes Paul, l'orateur d'Éphèse.
Peut-on appeler amour ce délire mystique? L'exaltation dont il témoigne ne révèle-t-il pas déjà le refus de son accomplissement terrestre?
On sait peu de choses sur George Gould. Jeune pasteur, il séjourne quelque temps à Amherst. Il a la fougue de la jeunesse, la ferveur des désespérés. Il est beau, pauvre, toute la ville l'admire. Émilie l'aime et il partage cet amour. Pourtant, sur les instances d'un seul homme, il sera contraint de partir. Cet homme, le plus influent de la région, avocat austère et rigoureux, croyant inflexible, sénateur de l'État du Massachusetts, représentant de son État au Congrès de Washington, cet homme est le père d'Emily. À quel mobile Edward Dickinson obéit-il en éloignant George Gould? Pressent-il qu'Emily serait prête à le suivre pour toujours? Craint-il vraiment de perdre celle de ses filles qu'il aime le plus secrètement? Amour ou despotisme?
Toujours est-il que lorsqu'Emily revoit George Gould au cours d'un ultime voyage à Philadelphie, elle refusera de le suivre. Obéissance à son père ou terreur de l'inconnu qu'elle a tant sublimé. De ce déchirement, elle portera les stigmates toute sa vie.
Fais-moi un portrait du soleil, que je puisse pendre dans ma chambre, en faisant semblant d'avoir chaud quand les autres annoncent le jour. Dessine-moi un rouge-gorge sur une branche, que je puisse entendre celui dont je rêve et mettre fin quand les vergers se taisent au simulacre de l'absence. Dis-moi s'il fait vraiment chaud à midi, si les boutons d'or papillonnent et si les papillons fleurissent. Alors, franchis le gel par-dessus le pré, la rainette sur son pommier, jouons à ceux qui n'arrivent jamais.
Plus tard, tapis dans sa chambre ou rêvant derrière les étroites fenêtres du salon obscur de la maison paternelle, visionnaire laborieuse, toute porte retombée sur sa solitude, elle reprendra, comme on le fait d'une broderie, le même motif, sans cesse reproduit et recommencé, de cet impossible amour qu'elle a tant sollicité et toujours repoussé.
Lorsqu'en 1860, elle croit s'éprendre du révérend Charles Wadsworth, son aîné de 17 ans, familier de la maison paternelle, ne continuera-t-elle pas avec lui le même entretien passionné commencé 13 ans auparavant avec Humphrey et Newton, poursuivi avec George Gould et repris en une frénétique et bouleversante flambée, la dernière avec le juge Otis Phillips Lord?
Folle nuit, si j'étais avec toi, les folles nuits seraient notre luxure. Les vents, fut-il pour un cœur en son port, plus de boussole et plus d'atlas, ramé au paradis. Ô mère, si je pouvais ce soir mouiller en toi.
À la mort de Wadsworth, elle écrit:
je n'ai jamais eu l'occasion de parler du pasteur bien-aimé avec personne qui le connut, malgré notre intimité qui a duré plusieurs années. Sa vie fut si timide et ses goûts si peu connus que la douleur de sa mort ne semble guère partagée. Il a été mon berger depuis mon enfance et je ne puis concevoir de monde sans lui, tellement il a été noble, insondable et doux.
Mais à la mort de Phillips Lord, elle avoue seulement:
je n'étais que son amie. Je ne suis qu'une élève qui a perdu son précepteur.
Pudeur ou retranchement? Pourtant, c'est à Phillips Lord qu'elle appelait « mon beau Salem » du nom de la ville où il habitait qu'elle adressera ses lettres les plus passionnées et d'une teneur presque érotique. Très peu nous sont parvenus, la plupart de ces lettres dorment encore dans un coffret que les descendants de Phillips Lord refusent de livrer. Craignent-ils que, 80 ans après, une passion si rare et enfin libérée ne jette encore des feux scandaleux sur un nom que le puritanisme a irrémédiablement frappé?
Mon beau Salem me sourit. Je cherche son visage si souvent, mais j'en ai fini avec les faux semblants. J'avoue que je l'aime, je me réjouis de l'aimer. Je remercie le Créateur du ciel et de la terre qui me l'a donné pour que je l'aime. L'exaltation m'inonde et je ne puis trouver de chenal. Le ruisseau devient mer rien que de penser à vous. Me punirez-vous? Incarcérez-moi en vous-même, rose punition. C'est se perdre avec vous dans un dédale qui n'est ni la vie ni la mort, bien qu'il fût intangible comme l'une et fougueux comme l'autre.
Phillips Lord est, comme Wadsworth, un ami de la famille. Étant enfant, Emily a vu son père s'entretenir avec lui des études faites ensemble à l'université. Adolescente, elle a appris ses succès en politique et au barreau. Elle sait qu'en 1843, il s'est marié à Harvard, dont il est la personnalité la plus en vue.
En 1882, lorsqu'il retourne à Amherst, Philip Lord est veuf. Il a 60 ans. Emily en a 56. Pour elle comme pour lui, la mort a taillé de grandes brèches autour d'eux. Son père et sa mère sont morts. Austin, son frère, s'est marié. Elle reste seule avec Lavinia et Carlo, son chien, dans la vaste maison vide, fermée au monde.
Il est étrange que vous me manquiez tant la nuit, à l'heure où jamais je ne fus près de vous. J'ai rêvé la semaine dernière que vous étiez mort. On avait érigé une statue de vous et on m'a demandé de la dévoiler. J'ai répondu que ce que je n'avais pas fait durant votre vie, je ne le ferai pas dans la mort, vos yeux aimés ne pouvant me pardonner.
Voilà sans doute l'explication des dernières volontés d'Émilie. Brûler toutes les lettres qu'elle a reçues.
Le passage de mon amour rustique sur vos royaumes d'Hermine, seul un souverain pouvait le pardonner. Comme d'autres vont à l'église, je vais à la mienne, car n'êtes-vous pas mon église? Et n'avons-nous pas un hymne que personne ne connaît à part nous?
Nous ne connaîtrons jamais la réponse de Philip Lord. Il était revenu à Amherst en 1882. Il meurt en 1884. Emily a eu 2 ans pour l'aimer. Elle lui survivra, mais il lui faudra attendre 2 ans encore avant de le rejoindre, corps et âme, selon son unique désir, dans la mort.
Je ne peux pas vivre avec toi, car ce serait la vie, et la vie est là-bas, sous cette planche. Le fossoyeur en a la clé qui range notre vie, sa porcelaine, comme une coupe désuète ou brisée dont se défait la ménagère. On aime un nouveau Sèvres, les vieux se fêlent. Je n'ai pas pu mourir avec toi. Il faut que l'un attende pour refermer les yeux de l'autre. Tu n'as pas pu. Mais moi, pouvais-je attendre que le froid t'ait saisi sans réclamer mon droit de gel, privilège de mort? Et je ne pouvais pas m'élever avec toi, car ton visage eût voilé celui de Jésus, grâce nouvelle qui eût brillé étrange et simple en mon œil triste. Sinon que tu eusses brillé plus près que lui. On nous condamnerait. Comment? Tu as servi le ciel, tu sais, ou bien tu essayas, et moi je n'ai pas pu, car tu comblais ma vue, et je n'avais plus Dieu pour quelque perfection sordide, comme le paradis. Si tu étais perdu, je le serais, bien que mon nom résonnât le plus haut dans la gloire du ciel. Si tu étais sauvé, et moi condamné d'être où tu n'es pas, je serai mon enfer. Restons donc séparés, toi là-bas, moi ici, avec la porte entrebâillée que sont les océans et la prière, et cette pâle nourriture, le désespoir.
À ce jour, on a retrouvé plus de 1500 poèmes d'Emily Dickinson. 666 de ces poèmes, flèches de mélodie, parurent pour la première fois en 1945, plus d'un demi-siècle après sa mort. Comme le remarque très justement Alain Bosquet dans l'étude qu'il lui a consacrée,
« Dans un sens, ce retard ne doit pas être déploré. Il vaut mieux que les écrits qui correspondent le plus à la sensibilité du XXe siècle aient vu le jour après Rimbaud, après Mallarmé et, aux États-Unis, après Hart Crane. Ils n'en sont que plus actuels. Il faudrait dire plus durables, plus universels. »
« Si je ne suis plus vivante, quand viendra le rouge-gorge? Donne aux cravatés de rouge une miette obituaire. Si je viens de m'endormir et ne puis dire merci, sache que je m'y efforce d'une lèvre de granit.
Coldback. Tels furent les derniers mots écrits par Emily Dickinson quelques heures avant de mourir, le 15 mai 1886. À l'annonce de sa mort, Higginson lui rendra une dernière visite.
L'herbe était pleine de papillons, de géraniums sauvages et violets. À l'intérieur, sur le piano, il y avait une poignée de pensées et de muguets. Sur le visage d'Emily Dickinson, un regain de jeunesse étonnant. Elle avait 56 ans et en paraissait 30, sans un cheveu blanc ni une seule ride. On avait placé un petit bouquet de violettes près du cou et un cypripède de rose. Vinnie, la sœur, lui mit deux héliotropes dans la main pour les porter au juge Lord. Je lus un poème d'Emily Bronte.
Vous venez d'entendre Autopsie d'une solitude par Vera Feder. Hommage à Emily Dickinson. Avec Jean Negroni, Pierre Delbon, René Farabé, Vera Feder et Michel Bouquet. Avec la voix de Mildred Clary. Poèmes et lettres traduits par Alain Bosquet, Vera Feder, Pierre Léris. Collaboration technique Jean Laurence. Prise de son Daniel Tourcière. Assistante de production Nicole Millienne. Réalisation Bernard Latour.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 13 mai 1966.